pays a son histoire, ses faits historiques, ses récits. Ils façonnent souvent les façons de fonctionner, de penser. Ils sont parfois des piliers nationalistes également. Il faut donc discerner le vrai du faux, ou en tout cas, ne pas prendre un mythe pour une réalité.
C'est le sujet de la conférence « Une autre histoire de la Suisse » qui sera donnée ce soir au CIP de Tramelan. Dominique Dirlewanger, professeur d'histoire au gymnase de Renan, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
La première question qu'on se pose, c'est la frontière entre les faits historiques et les récits. Est-ce qu'elle est minuscule ?
C'est-à-dire qu'il s'appuie en règle générale sur des éléments vraisemblables ou des éléments historiques, mais dont on connaît relativement mal les contours. Et puis, à partir de ce fond de vraisemblance, on construit un récit qui va avoir ensuite la force de la vérité, ou disons l'évidence, la force de l'évidence. C'est ça la manière dont le mythe en fait réussit à fonctionner de manière absolument efficace.
Les fake news, ça date pas d'aujourd'hui donc.
Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui, et surtout, les Grecs nous l'avaient déjà enseigné. La mythologie grecque fonde un univers extrêmement riche, qui est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui dans nombre de nos récits littéraires, cinématographiques, publicitaires, et sur lesquels on peut construire de la cohésion, vous l'avez rappelé, du patriotisme ou du nationalisme également.
Quand on parle de mythe, c'est autant positif que négatif?
Il y a plusieurs catégories de mythes. Le mythe fondateur, vraiment celui qui a le plus de notoriété en Suisse, c'est celui de Guillaume Tell. Il a été utilisé autant par les partis politiques, de gauche comme de droite d'ailleurs. C'est plutôt d'ailleurs une figure de gauche dans la première moitié du 19e siècle, avant d'être aujourd'hui récupéré essentiellement par les conservateurs et les nationalistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette figure, elle n'est pas à proprement parler suisse. Elle a été pendant de nombreux siècles utilisée par des pays voisins. Et puis, c'est un dramaturge allemand, Schiller, ou un auteur d'opéra italien, Rossini, qui ont véritablement propulsé cette figure comme personnage populaire. C'est l'opéra de Rossini au début des années 1820 et la pièce de théâtre de Schiller à la fin du 18e siècle qui ont véritablement donné à ce personnage sa notoriété internationale.
Donc Guillaume Tell, il n'est pas suisse.
C'est-à-dire Schiller a ce génie de fixer Guillaume Tell en Suisse, donc c'est une importation allemande. Dans le fait de fixer le récit en Suisse est l'œuvre d'un auteur allemand, ce qui est assez cocasse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que dit le récit de Tell au XVIIIe siècle, ça parle essentiellement de la Révolution française et du régicide. Donc on voit bien qu'en fait, c'est légende et ces mythes, ça circule. Hein. Le cycle de conférences dans lequel je suis invité là au CIP à Tramelan s'intitule Suisse-Europe. On voit qu'en fait, ces éléments identitaires, ils circulent en Europe, ils sont nourris autant de l'apport européen que du génie propre des Suisses.
Et puis ce que vous disiez également, c'est qu'un personnage comme Guillaume Tell, au fil du temps, il va représenter différentes sensibilités. C'est pas quelque chose qui est figé ?
Exactement. Comme l'histoire d'ailleurs, hein, entre nous soit dit, les recherches historiques, elles évoluent, on fait des découvertes d'archives, il y a de nouvelles interprétations qui viennent renouveler profondément notre manière de percevoir cette histoire, d'où le sous-titre donc de la conférence de ce soir. Une autre histoire de la Suisse, c'est qu'on a depuis 25 ans de très nombreuses recherches qui ont amené à reconsidérer cette période fondatrice et à réinterroger ces mythes avec des instruments scientifiques tout à fait modernes.
Donc là, vous chamboulez un petit peu tout, puisque ces récits fantasmés, que ce soit la montagne du Grutli, que ce soit Guillaume Tell, ces récits-là, ils ont été fondés pour... Enfin, ils sont là pour que la légitimité du pays soit là, en fait.
Oui, mais en même temps, faire l'histoire de cette fondation de ces récits est très intéressant pour interroger notre présent, parce qu'on a quand même... On l'a vu sur le débat sur les langues, on le voit dans la question européenne... On a des enjeux politiques aujourd'hui qui sont hautement délicats à négocier. On sent tout de suite que la cohésion nationale en Suisse, elle est relativement forte, hein, si on la compare à la situation en Belgique ou dans d'autres États fédératifs. Moi, je ne fais pas trop de soucis pour la cohésion nationale de la Suisse. Mais en même temps, c'est toujours à fleur de peau. Et si on revient en fait sur la manière dont on a construit cette unité nationale à la fin du 19e siècle, on voit que c'est largement bricolé. C'est fait sur des éléments de discours qui sont relativement faibles, enfin facilement démontables. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment en fait cette sauce a pris, qu'est-ce qui a permis tout d'un coup que ces mythes s'imposent dans notre cohésion, puis ça permet de les interroger aujourd'hui, de comprendre un peu aujourd'hui comment on peut faire face à un certain nombre de défis en termes de cohésion nationale ou de développement de l'identité du pays.
Donc connaître les mythes et savoir que ce sont des mythes fondateurs, c'est essentiel pour comprendre, avoir un regard éclairé sur ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, puis comprendre comment, en somme, aujourd'hui, on construit de l'identité avec aussi d'autres références. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup de voir la débauche de moyens mis pour la sortie des nouveaux billets de banque. Ça fait deux fois maintenant qu'on assiste vraiment à un engouement. On a même des applications sur nos smartphones pour, faire de la réalité augmentée avec ces billets de banque. On voit que le franc suisse, aujourd'hui, est un symbole très fort dans une Europe qui a, en fait, perdu la souveraineté monétaire avec l'euro. Enfin, il y a là visiblement un élément sur lequel on construit un récit et une identité très forte.
Jusqu'à 9h, format A3.
Nous sommes de retour avec notre invité, Dominique Dirlewanger, professeur d'histoire, avec qui on parle de récits historiques, de mythes, en marge de la conférence qu'il va donner ce soir au CIP à Tramelan.
Dominique Dirlewanger, ces mythes, ces légendes, elles sont là pour façonner l'esprit nationaliste. Est-ce qu'elles sont aussi là pour donner une raison, si on parle un petit peu de l'Europe en général, de faire la guerre? Est-ce qu'elles excusent un petit peu le fait de partir en guerre?
Bon, là, l'histoire en fait de ces mythes fondateurs et de ces mythes nationaux est en fait complètement liée au développement de l'idée de nation. L'idée de nation, en fait, elle émerge dans le contexte de la Révolution française au XVIIIe siècle comme un concept politique très progressiste. Hein. La nation s'oppose au pays, la nation c'est la liberté et l'égalité, la nation c'est l'unité et l'indivisibilité de l'État. Donc c'est une idée, on voulait un peu caricaturer, de gauche, progressiste. Et en un siècle et demi, effectivement, elle va être récupérée dans le terreau nationaliste, patriotique, pour exclure et construire une opposition à l'étranger, une opposition et une mobilisation en faveur de la guerre. Mais en fait, ces discours-là, ils se construisent dans un contexte économique, dans un contexte politique qui leur échappe largement. Donc l'usage des mythes est quelque chose de très plastique, de très malléable.
Alors, on a vu comment on peut se servir, utiliser les mythes fondateurs, notamment de la Suisse, hein, puisque c'est l'histoire suisse dont on parle ce matin. Aujourd'hui, on continue à s'appuyer sur certains mythes. On en construit, on en conçoit de nouveaux pour continuer à renforcer, par exemple, la cohésion nationale.
Alors, il y a des mythes, effectivement, qu'on construit. J'ai fait référence tout à l'heure au billet de banque. Donc, effectivement, la monnaie joue un rôle très important. Il y a tout l'aspect de consommation. C'est vrai que quand vous arrivez en Suisse alémanique, vous avez les mêmes yogourts dans les mêmes diffuseurs avec des lettres en orange qui s'affichent comme ça dans les villes. Vous avez des personnages sportifs. Roger Federer ou Stan Wawrinka jouent un rôle très important de ce point de vue-là. Ce qui fait qu'aussi, on va pas les écorner. On va pas critiquer l'exil fiscal de Roger Federer à Dubaï quand il nous fait rêver le reste de l'année. On a ça, ces aspects très positifs. Après, politiquement, il y en a un qui est effectivement très fort et qui cristallise aussi notre rapport à l'Europe, c'est la question de la neutralité. L'histoire de cette neutralité est là encore entachée de légendes, d'aspects légendaires comme quoi les Suisses l'auraient demandé déjà au XVIe siècle à Marignan, et puis de faits historiques têtus qui reviennent comme ça montrer que d'abord c'est les puissances européennes qui nous l'ont imposé, cette neutralité, au congrès de Vienne de 1815, et que, disons, dans la première phase du XXe siècle, le premier tiers du XIXe siècle, la politique de neutralité n'était pas encore une évidence. C'était un choix, il a fallu le construire et le justifier. Et encore plus le justifier après la Deuxième Guerre mondiale où, disons, les autorités suisses et l'économie suisse avaient eu quelques malapartis avec notre voisin du Nord et fait un certain nombre d'affaires, disons, moralement répréhensibles.
Donc finalement, toutes ces légendes, ces récits, il faut y faire attention, il ne faut pas être trop crédule.
C'est un peu comme avec d'autres figures de notre enfance. On aime bien croire au Père Noël. Le lapin de Pâques, quand il nous amène du chocolat, c'est quand même quelque chose d'assez agréable et amusant. En même temps, quand il s'agit de réfléchir un peu sur des aspects plus fondamentaux de notre avenir ou d'un certain nombre de choix politiques, c'est vrai que l'instrumentalisation, l'usage, si on veut, de ce passé légendaire peut devenir un peu désagréable, peut masquer un certain nombre d'enjeux, et on n'est pas très loin à ce moment-là de la propagande ou, pour parler comme de manière moderne, des fake news.
Le travail de l'historien, il est d'autant plus essentiel aujourd'hui, justement, pour démêler le vrai du faux et puis dire de ce qui est de l'ordre du mythe, ce qui est de l'ordre de faits avérés.
Oui, ça, je pense qu'effectivement, on a un certain soutien de l'opinion. Les livres grand public ces dernières années en histoire ont quand même un assez bon succès. Enfin, le livre que j'ai publié en 2010 sur cet objet, c'est un des livres que j'ai le mieux vendu, alors que ça fait une dizaine d'années que je publie des ouvrages d'histoire. Et puis dans le même temps, on voit bien qu'il y a une certaine forme de méfiance ou de défiance vis-à-vis de cette histoire critique. La part de l'enseignement de l'histoire est réduite dans un certain nombre de filières de formation professionnelle. Donc on a en fait un mouvement assez ambivalent. Ce qui est certain, c'est que l'histoire, elle nous est d'autant plus utile dans des périodes un peu d'incertitude comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Et puis elle enseigne, ou disons, c'est pas une leçon à apprendre, c'est une leçon à comprendre. Donc la tentation d'essayer de donner des instruments pour que les gens interrogent les récits tout faits, les nouvelles, qu'elles soient vraies ou fake, c'est probablement des instruments très utiles pour le débat démocratique et puis pour une société qui est capable de s'interroger sur son présent.